Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Il fait nuit, mais l'actualité, elle, ne dort jamais. Alors installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'infos. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Un ouf de soulagement, Moderna affirme que son vaccin est efficace également contre les variants britanniques et sud-africains. En revanche, l'Institut Pasteur interrompt ses travaux sur son principal projet de vaccin contre le Covid en cause des résultats décevants. Nouveau coup dur pour la recherche française. Emmanuel Macron se donne quelques jours pour décider d'un éventuel reconfinement. Il y a urgence, alertent les scientifiques. Ils mettent en garde contre un scénario à l'anglaise, confinement trop tardif qui devient dès lors inefficace contre les variants. Le timide retour sur les campus aujourd'hui des étudiants de première année. Ils n'étaient pas nombreux dans les amphis, mais soulagés d'abandonner un temps leurs cours à distance. Dans ce journal également, la France vante son plan de relance auprès des chefs d'entreprise du monde entier. Le tabassage du jeune Youri à Paris. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales. Et puis le Vendée Globe, J-2 avant l'arrivée des premiers concurrents au Sable d'Olonne, où les attend de pied ferme notre spécialiste voile, Corinne Boulou. La météo, il va falloir se couvrir demain. Une nette baisse des températures est attendue le matin. Le temps sera sec en début de journée, mais la pluie fera son retour par l'ouest dans l'après-midi, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 1,57% à 5472 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Le spectre d'un troisième confinement inquiète les patrons. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une semaine décisive que nous allons vivre, une de plus dans cet interminable combat contre l'épidémie. Alors que l'exécutif tergiverse et temporise sur la question d'un troisième confinement, on va y revenir, et que les autorités sanitaires s'alarment de la progression en France du variant anglais, une bonne nouvelle est venue quelque peu alléger le poids de ce fardeau sanitaire. Anne Le Gall, le laboratoire Moderna, a indiqué aujourd'hui que son vaccin est efficace contre le variant britannique.
Oui, d'après les résultats de prise de sang sur des personnes vaccinées et d'autres réalisées sur des primates, le vaccin Moderna permet d'obtenir un niveau d'anticorps suffisant pour rester efficace contre le variant britannique. Cette efficacité existe aussi contre le variant sud-africain, même si elle est un peu moins marquée. Alors c'était attendu car le vaccin fonctionne un peu comme celui de Pfizer, pour lequel on connaissait déjà l'efficacité contre les variants. Mais pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre, infectiologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, cette annonce est une bonne nouvelle, d'autant que le vaccin booste peut-être aussi d'autres réactions de défense comme les lymphocytes T.
On a des résultats qui sont plutôt rassurants. Il n'est pas impossible qu'on ait aussi des résultats rassurants avec les autres aspects de la réponse immunitaire quand elle va être testée. Mais là, on voit bien, ça va être une course dans les mois à venir pour que d'autres variants ne surviennent pas et qu'eux posent un problème plus important que les variants actuels.
Et face à la multiplication des variants, Moderna souhaite aussi tester l'impact de l'injection d'une troisième dose de son vaccin. Ces essais vont être conduits prochainement avec les instituts nationaux de santé américains.
Merci Anne Le Gall. Mauvaise nouvelle en revanche pour la recherche française. Après les retards accumulés par Sanofi, l'Institut Pasteur renonce à son principal projet de vaccin contre le Covid. Vaccin qui utilisait comme base celui contre la rougeole. Les premiers tests montre qu'il n'est pas suffisamment efficace, comme l'explique Christophe Denfert, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur.
C'est une déception, mais en même temps, c'est la loi du développement vaccinal. On parle souvent de partir de 100 candidats pour arriver à un succès. Il faut aussi se dire que de cet échec, on pourra apprendre pour développer des vaccins dans le futur, apprendre aussi comment mieux utiliser cette plateforme rougeole pour le développement de vaccins contre d'autres maladies infectieuses.
Et puis même si ce projet est abandonné, vous avez encore d'autres projets en cours.
Oui, donc l'Institut Pasteur a deux autres projets de candidats vaccins. Un premier projet qui est basé sur l'utilisation d'un autre vecteur viral qui est un virus de la famille du VIH. Les résultats précliniques montrent que ce vaccin est très efficace, en particulier lorsqu'il est administré par l'utilisation d'un spray nasal. Le deuxième projet sur lequel nous travaillons, c'est un vaccin ADN, là aussi avec des résultats précliniques intéressants. Je pense que la recherche nous apprend à rebondir toujours et toujours, et sur cet échec, nous allons certainement rebondir.
Le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, joint pour Europe 1 par Rémi Bostaron. Le vaccin d'AstraZeneca, lui, n'a pas encore été validé par l'Europe, qu'il provoque déjà une polémique. Je vous en parlais ici même vendredi. Le laboratoire britannique a annoncé que ses livraisons à venir seront moins importantes que prévues en raison d'une baisse de rendement sur un site de fabrication. Inacceptable pour Bruxelles, déjà échaudée par l'épisode Pfizer. La présidente de la Commission européenne a appelé aujourd'hui le PDG d'AstraZeneca pour exiger que le labo honore son contrat en temps et en heure. Des heures, ou plutôt des jours, c'est peut-être ce qui nous sépare d'un troisième confinement. Des décisions seront à prendre cette semaine, a affirmé aujourd'hui Jean Castex. Le gouvernement débattra de la question mercredi matin lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Mais d'après nos informations, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de s'exprimer dans les jours qui viennent. Le président veut d'abord mesurer l'effet du couvre-feu à 18h. Il ne faut pas tarder, alerte de leur côté de nombreux scientifiques qui prennent pour exemple la Grande-Bretagne, dont le confinement n'a malheureusement pas stoppé la progression du variant anglais. Voilà pourquoi de plus en plus de spécialistes réclament qu'on reconfine la France au plus vite, Théo Manval.
Et oui, parce qu'après, disent-ils, il sera trop tard. Le reconfinement outre-Manche, on le voit, n'a pas permis de faire redescendre assez vite le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un malade. Il est encore une fois et demie plus élevé au Royaume-Uni qu'il ne l'était en France au même stade lors du deuxième confinement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il suffit d'être exposé à une moindre quantité de ce variant dans l'air pour être contaminé. C'est ça qui le rend plus contagieux et qui fait que même au sein d'un groupe confiné, comme une famille par exemple, il continue de se propager. C'est ce qu'explique le professeur Philippe Frogel, généticien à l'hôpital de Lille.
Et donc, ce qui veut dire qu'au lieu d'être 1m50, il faut être 2m50. Au lieu de mettre des masques en tissu, il faut mettre des masques plus efficaces. Et en fait, il faut garder quasiment toujours son masque, même en famille. Donc, c'est très, très, très difficile avec la variante anglaise de vraiment se protéger. En d'autres termes, en France, si on veut s'en sortir, il faut confiner tout de suite, avant que ce virus soit partout en France.
Un confinement qui serait donc en quelque sorte préventif avant que ce variant ne fasse vraiment flamber les chiffres. C'est toute la difficulté dans cette prise de décision politique dont on ne sait pas vraiment si elle sera communiquée d'ici à la fin de la semaine. Les chiffres qui se maintiennent, il faut quand même le rappeler, en tout cas sur une tendance en légère hausse depuis bientôt un mois maintenant.
Merci Théo Manval. Gérard Larcher, lui, estime qu'il faut tout tenter avant d'imposer un reconfinement qui pourrait avoir, selon le président du Sénat, des conséquences humaines très fortes, notamment chez les jeunes. Et c'est justement pour les aider à traverser cette période que le patron de La République En Marche propose la création d'un prêt à taux zéro de 10 000 euros pour les 18-25 ans. Emprunt sans risque, estime Stanislas Guérini, vu que son remboursement serait conditionné à un certain niveau de revenu, en dessous duquel vous n'avez pas à rembourser, plaide le numéro 1 de LREM. En attendant de s'endetter davantage, certains étudiants ont pu goûter aujourd'hui un ersatz de retour à la normale, après de longs mois passés devant leurs ordinateurs à suivre des cours à distance. Quelques premières années ont pu retourner sur les bancs de la fac pour suivre les TD en demi-groupe. Stéphane Place a passé la journée à l'université Bordeaux-Montaigne, où rares sont ceux qui ont pu voir leurs profs en chair et en os.
Je vous fais passer ceci. On va reprendre sur l'exercice.
Une petite quinzaine d'étudiants qui investissent cette salle de cours ici à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et autant de sourires qui illuminent les visages de ces premières années, inscrits en sciences du langage, heureux comme Carla, 19 ans, de ne plus être séparés du prof par un écran d'ordinateur.
Actuellement, il n'y a qu'un seul professeur qui nous a proposé de venir en cours. C'est un soulagement parce que ça fait depuis avant les vacances d'octobre qu'on n'est pas revenu à la fac. Ça fait du bien.
Mais faire revenir ces groupes d'étudiants au sein de l'université pour qu'ils puissent assister à des cours, ce n'est vraiment pas simple, souligne Nicolas Guilliot, enseignant-chercheur.
C'est strictement impossible de le faire tel que ça a été dit. Une journée par semaine pour les étudiants, c'est impossible à organiser suivant les emplois du temps des étudiants. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelques aménagements, notamment ce cours de description grammaticale. En fait, ils ont peu de cours le même jour, donc on a la possibilité de les faire venir. Ça demande quand même de faire le cours à distance en même temps. Donc sachez que je dois me trimballer mon ordinateur et tout ça. Donc c'est loin d'être pratique, mais on peut le mettre en place de façon ponctuelle. On essaie de faire plus sur les L1, mais en fait, la réalité, c'est que les L2 et les L3 ont les mêmes besoins.
Au-delà des annonces de l'exécutif, organiser le retour des étudiants demeure un véritable casse-tête, insistent les enseignants, avec en plus la menace désormais d'un troisième confinement.
Le reportage de Stéphane Place sur le campus de l'université Bordeaux. Bordeaux-Montaigne. Les enseignants dans la rue, demain à Paris et un peu partout en France. 6 organisations syndicales appellent à la mobilisation et à la grève pour la défense des salaires et pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire à l'école.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Une centaine de chefs d'entreprise du monde entier étaient aujourd'hui réunis virtuellement pour ce qui devait être initialement la 4e édition du sommet Choose France. Objectif, convaincre de l'attractivité du pays. Mais cette année, Carole Ferry, pandémie oblige, il a surtout été question de vendre notre plan de relance aux investisseurs étrangers.
Oui, c'est extrêmement important parce que tous les grands groupes préparent en ce moment le monde d'après. Et forcément, ils regardent quels sont les plans de relance des différents pays pour voir où il sera le plus intéressant d'investir. C'est pour ça que même si l'événement traditionnel de Choose France à Versailles a été reporté, Emmanuel Macron tenait à marquer le coup pour jouer les VRP du plan de relance Made in France à 100 milliards d'euros. Parmi les patrons présents, vous aviez Nestlé, Siemens, Ericsson, Snapchat, Ferrero ou encore Solvay. C'est en anglais que le président leur a promis de continuer à réformer le pays et à mener une politique pro-business. Même si les investissements étrangers ne sont plus aussi nombreux qu'avant crise, nous restons tout de même en bonne place, a tenu à rassurer par ailleurs le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester. Il était l'invité de La France Bouge ce midi sur Europe 1.
Il reste une bonne dynamique d'investissement malgré la crise. Le volume global est en baisse, mais beaucoup moins que dans d'autres pays, à commencer par la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.
Et le sommet en présentiel à Versailles devrait tout de même avoir lieu cet été, a priori fin juin, si les conditions sanitaires, bien sûr, le permettent.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. C'est aussi en visioconférence que s'est ouvert aujourd'hui le Forum économique mondial de Davos, l'occasion pour Xi Jinping, le président chinois, de mettre en garde contre une nouvelle guerre froide qui ne conduirait qu'à une impasse. Une manière d'avertir Joe Biden sur les conséquences qu'aurait la poursuite de la politique hostile à la Chine menée par son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump. La Grèce a signé aujourd'hui un contrat pour l'achat de 18 avions de combat Rafale à la France, 12 d'occasion et 6 appareils neufs. Montant de la transaction environ 2,5 milliards d'euros. Ce contrat a été négocié en un temps record en raison des tensions entre Athènes et la Turquie. Notez que le patron de Dassault Aviation sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1, Éric Trappier. Répondra aux questions de Sonia Mabrouk à partir de 8h15. Venons-en maintenant à ces images terribles qui ont suscité beaucoup de réactions ce week-end. Celle du violent passage à tabac du jeune Youri, 15 ans, il y a une dizaine de jours à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris. Agression sauvage, filmée par des caméras de vidéosurveillance où l'on voit une dizaine d'individus s'acharner sur l'adolescent. Il est toujours ce soir dans un état sérieux. Guillaume Bié, est-ce que l'enquête avance ?
Oui, le minutieux travail des enquêteurs se poursuit autour d'une hypothèse privilégiée, celle d'un affrontement entre bandes, une expédition punitive, possiblement menée en représailles à un affrontement ayant eu lieu 10 jours auparavant. Alors, dans cette enquête, la vidéo du lynchage de Youri est évidemment un élément très important pour les policiers, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les empreintes et les traces ADN qui ont été retrouvées sur place, ou encore l'analyse de la téléphonie ce soir-là. Tous ces indices peuvent permettre d'identifier la dizaine d'agresseurs qui s'est acharné sur l'adolescent. L'une des questions, c'est aussi de savoir si Youri était personnellement ciblé ou s'il a été frappé parce qu'il faisait partie du groupe visé par les agresseurs. Sur ce point, c'est encore flou. Le collégien n'a toujours pas pu être interrogé par les policiers du 3e DPJ. Il est sorti du coma hier, mais il n'est pas encore capable de s'exprimer, nous a confié tout à l'heure sa mère, qui reste à son chevet.
Merci Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. Une nouvelle affaire d'inceste dans le sillage des révélations concernant le politologue Olivier Duhamel. Elle concerne une autre personnalité publique, Gérard Louvain, bien connu des plateaux télé. Son neveu l'accuse d'avoir favorisé des viols incestueux commis sur lui par le mari du producteur de télévision. Accusation mensongère, dénoncent les avocats du couple. 4 ans, c'est la durée des travaux de restauration qui vont être entrepris au Centre Pompidou à Paris. Le célèbre musée fermera complètement ses portes de 2023 à 2027. C'est ce qu'annonce dans le Figaro la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Allez, pour conclure ce journal, allons respirer les embruns iodés de l'Atlantique, direction les Sables d'Olonne, où les leaders du Vendée Globe sont attendus à partir de mercredi. Et sur place, Corinne Boulou, on se prépare à accueillir les héros dans une ambiance forcément particulière.
Pendant qu'en mer, les solitaires emmenés ce soir par Charlie Dalin devant Louis Burton et Boris Herman se livrent une bataille navale pour la victoire, à terre, les derniers préparatifs sont en cours pour accueillir les navigateurs au ponton d'honneur du Vendée Globe. Le soleil du jour a permis aux promeneurs de profiter des joies de la côte et d'un chenal qui leur sera interdit d'accès le jour des arrivées. Le huis clos, comme au départ, a été décrété par la préfecture pour raisons sanitaires. Les réactions des promeneurs sablaises interrogés cet après-midi sont mitigées.
Bien sûr, on y serait allé, ça, effectivement. C'est bien dommage que ça se passe autrement, d'ailleurs.
C'est un peu normal avec tout ce qui se passe, là, à cause du Covid. Faut se faire une raison, quoi. C'est comme ça.
Cette année, le virus bouleverse la tradition qui pousse habituellement des dizaines de milliers de personnes à se rassembler le long du chenal qui mène au port pour saluer le retour des héros. Certains Sablais ont quand même trouvé la parade. Ils seront au balcon des immeubles qui longent l'un des côtés du chenal.
Je vais chez mon beau-frère, il y a un balcon, il donne directement dessus, alors c'est pas un problème.
Au balcon, on va les regarder arriver, donc on leur fait des coucous et puis...
Donc on attend mercredi avec impatience.
Les navigateurs du Vendée Globe ont quitté les sables il y a 78 jours à huis clos. Ils feront leur retour dans un silence inhabituel, mais il y aura quand même beaucoup d'émotions. Les Sables d'Olonne, Corinne Boulou, Europe 1.
Un mot du mondial de handball. Les Bleus affronteront la Hongrie pour les quarts de finale. Le match aura lieu mercredi. On passe à la météo. Anissa Haddadi, une nouvelle baisse des températures est attendue demain.
Oui, le froid va se généraliser demain, Julien, avec de nombreuses gelées matinales. Il va falloir se couvrir. Attention aussi si vous prenez la route au verglas, puisque les sols sont humides, parfois même enneigés. En Occitanie, les brouillards sont nombreux et épais. Et puis, dans le quart nord-ouest, sur les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, dans toutes ces régions, le ciel est très couvert demain matin. Partout ailleurs, nous aurons des éclaircies assez agréables. Le Mistral et la Tramontane se lèvent au bord de la Méditerranée et vont renforcer cette sensation de froid. Dans l'Est, en Alsace, Franche-Comté, il neige encore demain toute la journée. Des chutes de neige bien moins fortes qu'aujourd'hui, quelques flocons seulement. Au fil des heures, le ciel va se couvrir sur toute la moitié ouest du pays. Les nuages avancent avec dans le nord, la Normandie et la Bretagne, des averses en bord de mer et partout ailleurs, des Ardennes jusqu'au Languedoc sur la moitié est du pays. Là, le soleil est encore bien présent. Les températures, je vous le disais, elles baissent avec moins 7 à Aurillac, moins 4 à Limoges et Annecy, moins 3 à Clermont-Ferrand, 1 degré pour Paris et 5 à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire avec des valeurs proches de celles d'aujourd'hui. 2 à Saint-Étienne, 6 pour Paris et 14 à Biarritz.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Le spectre d'un troisième confinement inquiète fortement les patrons. Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit dans quelques minutes Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous, c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
La bourse de New York commence la semaine sur une note, on va dire, mitigée et c'est toujours la crise sanitaire qui donne le ton.
Oui, les investisseurs s'interrogent sur le rythme jugé trop lent de la vaccination anti-Covid aux États-Unis. Ça pèse sur le Dow Jones en petit repli de 0,12%, 30 960 points. Le Nasdaq, lui, garde la forme et monte de 0,7%, 13 635 points. Il en profite pour signer un nouveau record. La vaccination inquiète donc aux États-Unis et les laboratoires restent très surveillés. Le titre Moderna flambe de 12%. Son vaccin semble donc efficace contre les variants du Covid. Bonne nouvelle, saluée évidemment par Wall Street. Le groupe Merck, lui, termine stable. Merck a dû jeter l'éponge avec ses deux projets de vaccins parce qu'ils ne sont pas assez efficaces.
Un projet qui était mené en partenariat avec l'Institut Pasteur. Encore une séance de forte hausse pour les valeurs stars de la technologie aux États-Unis.
Oui, ça monte pour les technos. Apple bondit de 2,7% et s'offre un nouveau record historique. Les résultats trimestriels du groupe sont attendus mercredi soir après la clôture de Wall Street, comme ceux de Tesla et Facebook. Ils devraient être bons, ces résultats, profitant toujours de la crise sanitaire et des nouvelles habitudes des consommateurs. Tesla gagne 4%, Facebook plus 1,3%. Et puis côté devise, l'euro perd 0,3% et s'échange contre 1,2138.
À Paris, les investisseurs craignent un reconfinement et ça pèse fortement sur le CAC 40.
Oui, le CAC 40 est rattrapé une fois de plus par la crainte d'un nouveau tour de vis qui pourrait encore ralentir l'économie. L'indice perd 1,57%, 5 472 points. Les valeurs sensibles à un éventuel confinement sont sous pression. Air France KLM perd plus de 3%. Le groupe hôtelier Accor chute de 5%. Les foncières commerciales Total, Unibail, Rodamco, Westfield et Klépierre perdent également du terrain dans l'hypothèse d'une fermeture de leurs centres commerciaux.
La chute du jour est signée EDF. L'action plonge de plus de 15%.
Ouais, les voyants semblent au rouge pour la grande réforme de l'énergéticien baptisé Hercule. Le gouvernement discute avec la Commission européenne de cette réforme de la régulation du nucléaire français qui s'accompagnerait d'une réorganisation d'EDF. Mais les négociations, elles patinent selon BFM Business. Et c'est donc un plongeon de 15,6% ce soir pour EDF. Les inquiétudes sanitaires ont dicté la tendance en Europe aujourd'hui. Londres, 7,08%. Francfort et Madrid lâchent 1,7%. Milan, moins 1,6%. Amsterdam, moins 0,3%. Et à Paris, c'est un recul de 1,6% pour le CAC. 5 472 points ce soir.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à demain Claire. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Yves Duménil.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si nous avons voulu être en ligne avec vous, c'est parce que du côté de la CPME, dont vous êtes le secrétaire général, vous vous inquiétez d'un éventuel troisième confinement pour les petites entreprises que vous représentez. Avec un point notamment que vous mettez en avant, avec 100 000 entreprises qui ne seraient pas capables de rembourser les prêts qu'elles ont pu avoir pour passer les premiers confinements, si jamais il devait y avoir un troisième confinement. C'est-à-dire que les entreprises sont totalement à bout ?
C'est-à-dire, heureusement, on ne peut pas parler de l'ensemble des entreprises, mais en tout cas, certaines d'entre elles, oui, tout simplement parce qu'elles ont souffert des deux premiers confinements. Donc, évidemment, ça a impacté leur chiffre d'affaires, leur trésorerie, leurs fonds propres. Certaines ont fait appel au prêt garanti par l'État, ont utilisé le prêt garanti par l'État. Et maintenant, elles sont effectivement en très grande difficulté. Donc, si on va, comme malheureusement, ça a l'air de se dessiner vers un troisième confinement, ces entreprises-là, il va falloir des mesures supplémentaires pour leur permettre tout simplement de passer le cap. Sinon, c'est leur existence même qui est en jeu.
Là, les adhérents de la CPME vous appellent pour dire « mais faites quelque chose, reculez ce confinement parce qu'on n'y arrivera pas ».
Oui, on sent qu'il y a à la fois une exaspération et une crainte très forte. On vient de faire une enquête là au mois de janvier. Et effectivement, on a plus de 49% des entreprises, donc quasiment la moitié, qui nous disent qu'elles ne sont pas prêtes à supporter un troisième confinement. Donc vous voyez que l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est véritablement une très forte inquiétude, un besoin d'être assuré, un besoin de pouvoir anticiper. Et véritablement, il faut qu'on sache si on a un troisième confinement, quelle en sera la durée. Parce qu'on s'est aperçu dans les éditions précédentes qu'à chaque fois, on reculait petit à petit la durée de ce confinement. Donc, il faudrait qu'on sache dès le départ quelle est la durée. Et puis, on a besoin aussi, en ce qui concerne les commerces en particulier, de ne surtout pas interrompre la période des soldes. Les soldes, c'est fait pour écouler les invendus. Ça permet dans la période actuelle de reconstituer la trésorerie des entreprises et ça serait catastrophique d'arrêter brutalement. Mmh. Et puis je vous rappelle ce qu'on a vécu dans la période précédente.
Mais ça veut dire quoi
avec le débat sur le commerce essentiel, non essentiel.
Bah là, a priori, maintenant, on a posé les bases et là-dessus, ce serait plus simple. Mais ça veut dire quoi que les entreprises puissent anticiper ? Par exemple, si ça devait être annoncé en milieu de semaine, vous voudriez peut-être que ça ne commence que dans 10 jours, le temps d'écouler la fin des soldes et ce genre de choses ?
Mais bien sûr, c'est exactement ça. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin, même pour vous organiser par rapport à vos stocks, par rapport aux consignes à passer aux salariés, par rapport à tout simplement à la vie quotidienne de l'entreprise, de bénéficier d'un minimum d'anticipation. On a besoin de visibilité pour l'avenir et d'anticipation par rapport à la période actuelle. Mmh. Et là, on a l'impression que ça nous tombe dessus brutalement, sans véritablement qu'on comprenne pourquoi on pourrait anticiper.
Est-ce que vous avez un peu l'impression que les chefs d'entreprise sont des oubliés en ce moment ? Est-ce qu'il y a des concertations avec, par exemple, Bercy, pour vous préparer à ce troisième reconfinement ?
Alors, il y a beaucoup d'échanges avec Bercy sur les mesures d'accompagnement des entreprises. Et globalement, on peut dire que l'État, à quelques exceptions près, mais a plutôt fait le job là-dessus. Mais là, pour répondre à votre question précise, non, il n'y a pas eu de concertation. Si on doit annoncer cette semaine un nouveau confinement, on aurait bien aimé pouvoir échanger avec les pouvoirs publics, avec Bercy notamment, sur les conditions de maintien de l'ouverture des commerces. On aurait aimé savoir ce qui va en être pour les écoles également. C'est vraiment très important pour pouvoir continuer l'activité des entreprises. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu au mois de mars, qui a été une catastrophe totale pour les entrepreneurs et pour les entreprises.
Typiquement, je crois que ce que vous voulez sur les commerces, c'est pouvoir avoir des heures d'ouverture, même pour les commerces non essentiels, même si on doit être en confinement, peut-être pas toute la journée, mais une, deux heures, de façon à pouvoir accueillir correctement les clients.
Oui, absolument. C'est en tout cas que l'activité ne s'arrête pas purement et simplement de manière brutale. C'est qu'on puisse réfléchir, si on ne peut pas faire autrement pour des raisons sanitaires, à des conditions peut-être différentes d'ouverture, mais en tout cas pas le blackout comme on l'a connu. Enfin, ça devient absolument insupportable. Nous, on a beaucoup d'indépendants qui sont adhérents à la CPME. On a des situations de gens qui sont désespérés, même à titre personnel. Quand vous apportez des aides à l'entreprise, ça ne règle pas le problème des emprunts personnels qu'a pris le dirigeant. Il est comme tout le monde. Il peut avoir acheté une maison en propre, il peut avoir des emprunts personnels, et là, ça ne règle rien du tout. Donc, on doit laisser travailler les entrepreneurs. C'est vraiment fondamental pour nous.
Et puis là, on sent qu'il y a une forme de, vous le ressentez, j'imagine, de détresse psychologique pour les secteurs les plus touchés. On pense bien évidemment à la restauration, mais également là, en ce moment, aux petits magasins indépendants de vêtements qui espéraient bien se refaire.
Mais oui, parce que ces gens-là, n'oubliez pas que pour les salariés, il y a je dis pas que les choses sont faciles, mais il y a le chômage partiel qui existe. Quand vous êtes indépendant, il n'existe absolument rien aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas d'activité, c'est très simple, vous n'avez pas de revenus. Imaginez la désespérance des personnes qui sont concernées, qui avaient des entreprises qui tournaient de manière correcte, qui faisaient leur boulot, qui essayaient de développer ces entreprises, et du jour au lendemain, on leur impose de s'arrêter et on les précipite dans un gouffre. Enfin, c'est totalement insupportable. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Eh bien, merci en tout cas, Jean-Eudes Deminil, le secrétaire général de la CPME, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag au programme du rêve serti de pierres précieuses. Ils recevront le directeur général de la marque de joaillerie Chaumet. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération dont voici le titre « Reconfinement, on n'est pas à une semaine près ». Ces mots, ce sont ceux de Jean-François Delfraissy qui a accordé un entretien à Libé. Le président du conseil scientifique dit être inquiet face à la progression des variants, mais il recommande néanmoins d'attendre, d'en savoir plus sur leur diffusion et sur l'effet du couvre-feu avant de durcir les restrictions. C'est exactement la position d'Emmanuel Macron qui, d'après nos informations, je vous en parlais dans le journal, ne compte pas s'exprimer dans les jours qui viennent pour attendre justement de pouvoir mesurer l'effet du couvre-feu avancé. Alors, on reconfine ou pas, s'impatiente dans l'Alsace Laurent Baudin qui résume le dilemme du président. Ne rien faire consisterait à prendre le risque d'un Covid galopant dans les prochaines semaines, mais reconfiner sans attendre, c'est ouvrir le parapluie sans être sûr que cela est nécessaire et accroître les conséquences sociales et économiques tout en affectant un peu plus le moral des Français, écrit l'éditorialiste. Bref, il n'y a pas de bonne option, simplement des solutions plus ou moins bonnes selon l'angle d'analyse de chacun. Les échos reviennent sur l'annonce de l'Institut Pasteur qui a décidé d'arrêter le développement de son principal projet de vaccin contre le Covid. Une douche froide française, titre le quotidien économique, qui rappelle les difficultés de Sanofi dont le vaccin accuse un sérieux retard. Elles, en revanche, comblent leur retard. Elles, ce sont les voitures électriques. 2020 restera dans l'histoire comme l'année où l'automobile européenne s'est convertie à l'électrique, peut-on lire à la une des échos. Il s'est vendu en Europe de l'Ouest 1,3 million d'électriques et d'hybrides rechargeables l'an dernier, c'est 144% de plus qu'en 2019. Mais c'est surtout 12,5% du marché, du jamais vu. Côté constructeur, Tesla s'est fait doubler par Volkswagen et Renault, à lire donc demain dans les échos. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Parfaitement bien.
Eh bien, cette nouvelle semaine débute dès maintenant avec votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, 39-21 pour vous appeler et témoigner.
Exactement. Et nous, on se retrouve dans à peine une demi-heure pour votre flash, Julien.
À tout à l'heure.